Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Nos institutions sont-elles fragilisées par la crise politique que connaît la France? 4 premiers ministres en un an, un premier ministre censuré par les députés, François Bayrou. Avant lui, Michel Barnier a tenu 91 jours, mais le record a été battu par Sébastien Lecornu, dont le premier gouvernement n'a duré que quelques heures. Nommé une nouvelle fois, il a échappé à la censure à 18 voix près, au prix d'une concession majeure, la suspension de la réforme des retraites. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond en France? L'Orient Le Jour a qualifié l'Hexagone de Liban sans le soleil. Le journal italien Corriere della Sera parle d'un système politique français en ruine. Ce système repose sur un président de la République avec des prérogatives importantes. Il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. De Gaulle avait voulu la Ve République pour qu'on ne retombe pas dans les travers de la Troisième et de la Quatrième République qui avaient des gouvernements courts à la merci du Parlement. Cette Ve République avait été créée précisément pour sortir de l'immobilisme. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons Henri Vernet, rédacteur en chef au Parisien aujourd'hui en France. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors ces derniers mois, les Français ont été suspendus aux décisions du président Macron. Certains l'accusent d'avoir fragilisé nos institutions, d'autres affirment que sa parole est démonétisée. J'ai même entendu l'expression « fatigue démocratique ». Au-delà de la personne du chef de l'État, c'est le système politique français qui semble fragilisé. Alors Henri Vernet, qu'est-ce qui est en train d'arriver à la Ve République?
Disons qu'elle vit une crise assez importante, elle est remise en question sur ses fondements. J'aime bien d'ailleurs les images que vous avez citées de la part des pays étrangers qui nous regardent, hein. La France et le Liban sont le soleil, ou le système politique français en ruine de la part des Italiens. C'est vrai que quelque part, il y a à la fois de la sidération, de l'étonnement chez nos voisins, mais également, vous savez ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, quand on se réjouit un petit peu en secret des ennuis, des malheurs de ses amis, parce que c'est vrai que la France, longtemps, dans ces pays, a été regardée justement comme un modèle de stabilité. La stabilité institutionnelle, c'est-à-dire la possibilité pour les dirigeants de gouverner, pour les gouvernements véritablement d'imposer leur politique, en tout cas de la passer sans problème, c'est quelque chose qui a souvent été regardé un petit peu comme une exception relativement enviable par d'autres pays. Enfin, je parle notamment de nos voisins européens où les systèmes de décision sont beaucoup plus complexes et où les parlements, qu'il s'agisse du Bundestag, qu'il s'agisse du Parlement italien, d'autres parlements ont beaucoup plus leur mot à dire dans les politiques et donc rendent les décisions peut-être plus complexes, beaucoup plus longues. Eh bien, ce système-là de la Ve République, il est aujourd'hui battu en brèche parce que précisément ce qui doit faire sa force, la stabilité, la possibilité d'aller relativement vite et de manière efficace, est totalement remis en question. Alors, singulièrement depuis la dissolution de 2024, mais déjà en réalité depuis 2022, c'est-à-dire la perte de la majorité absolue pour le président. Et là, il n'a même plus de majorité relative qui est revendiquée par tout le monde, ce qui fait qu'on a un pays quasiment ingouvernable, en tout cas, qui a du mal à trouver son mode de gouvernance depuis désormais un an, puisque les premiers ministres se succèdent, alors parfois à eux-mêmes, à un rythme jamais connu. Et juste un dernier mot, vous avez cité dans votre introduction la Constitution de 1958, donc voulue par le général de Gaulle, dessinée et écrite par Michel Debré. Et moi, je discutais à plusieurs reprises ces dernières années avant sa mort avec Jean-Louis Debré, qui a été une figure politique et qui a été notamment président du Conseil constitutionnel.
Fils de Michel Debré.
Fils de Michel Debré, c'est bien pour ça que je le cite. Et il me disait justement que l'objet dans l'esprit de cette Constitution, donc rédigée par son père, c'était moins d'assurer la représentativité la plus exacte possible des courants politiques du pays, ce que font les parlements élus à la proportionnelle, donc encore une fois dans bien des pays européens. Non, c'est pas ça l'objectif. Le premier objectif de ce système-là, de notre système, c'est justement d'assurer la stabilité gouvernementale et donc l'action du gouvernement.
Henri Vernet, est-ce qu'on peut rappeler le contexte dans lequel est née la Ve République? On était alors en pleine guerre d'Algérie.
On est dans la guerre d'Algérie. C'est en effet ce qui va motiver le président, d'abord président du Conseil, Charles de Gaulle, puis qui deviendra président de la République, mais président de la République, justement, à l'issue du vote de ce texte, du vote par référendum de ce texte constitutionnel. C'est certes la difficulté à sortir de la guerre d'Algérie et surtout les décisions qu'il sait qu'il va devoir prendre, le général de Gaulle, pour mettre fin à ce conflit, même si à l'époque, rappelons-nous, on parlait surtout pas de guerre, on parlait d'événements, mais en tout cas il sait que ça va être dur d'en sortir et que donc il lui faudra un système politique fort. Donc à l'époque, de Gaulle, il est président du Conseil, il est premier ministre en quelque sorte, et il va dessiner cette constitution pour justement avoir ce système plus efficace. C'est cette crise-là, mais c'est aussi le grand motif de Charles de Gaulle, c'est aussi justement en finir avec ce qu'il appelait, vous savez, le régime des partis, le régime d'assemblée. C'est-à-dire que sous la Troisième République, qui évidemment il avait bien connu, puisque la Troisième République était morte avec la Seconde Guerre mondiale, mais sous la Quatrième République également, qui étaient des régimes où, vous l'avez dit, les gouvernements ne duraient que quelques mois. Alors certes, on retrouvait souvent les mêmes ministres, simplement ils changeaient de fonction, ils changeaient de fauteuil, il y avait une valse un petit peu permanente, mais c'était une valse qui se faisait donc au gré des parlementaires, au gré des élus, au gré des députés, qui concernait d'ailleurs très vaguement les Français, les électeurs, ce qui se passait à l'époque au palais Bourbon, leur échappait largement, et donc c'était vraiment le régime des partis. Et donc, le contexte, c'est surtout celui-là. Certes, la guerre d'Algérie et les décisions difficiles qu'elle va imposer, puisque la Constitution est faite en 58 et la guerre d'Algérie, la paix, le règlement arrive en 1962, et donc c'est vraiment doter la France de ce que Charles de Gaulle avait déjà décrit dans un fameux discours, dans un discours qu'il avait prononcé à Bayeux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel il voyait ce régime fort, stable, institutionnel pour la France. Donc le contexte, il est là, il est de dessiner des institutions où le président ou le pouvoir exécutif a les pouvoirs, a les moyens de mener sa politique sans être entravé en quelque sorte, je parle là avec un point de vue gaullien, sans être entravé par les jeux partisans au Parlement.
Un président de la République qui a la légitimité du suffrage universel, c'est aussi ça qu'a introduit la Ve République.
Et c'est un point très important, et c'est ça peut-être l'innovation presque majeure du général de Gaulle, enfin du président de Gaulle à l'époque. Il a bien conscience que ce système, qui est quand même sui generis en France, on n'a vraiment jamais tellement vu ça, parce que bon, c'était la monarchie, puis après les républiques, et qui donnait beaucoup, beaucoup d'espace aux partis. Là, c'est un homme, le président, sauf que il sait très bien, Charles de Gaulle, que lui, parti, par définition, sont ses successeurs, n'auront pas la légitimité historique de l'homme du 18 juin, de l'homme de la résistance. Et donc, il faudra doter le futur, les présidents de la 5e, de cette légitimité. Vous savez, quand la 5e avait été dessinée, la Constitution, il y avait une petite blague qui disait, écoutez, vous enlevez de mémoire, c'est les 189 articles de la Constitution, vous grattez, qu'est-ce qui reste derrière la Constitution? Eh bien, il reste de Gaulle. Et c'est vrai qu'elle était taillée à sa mesure. Or, dans cette France qui reste quand même très agitée, très perturbée, au début des années 60, fin des années 50, de Gaulle a échappé de très très peu à un attentat, l'attentat du Petit Clamart. Et c'est là qu'il se décide véritablement à faire cette révolution du suffrage universel, donc du président élu au suffrage universel, parce qu'il se dit, j'y ai échappé de peu, mais donc celui qui me succédera, il faudra vraiment qu'il soit doté de la légitimité maximale, souveraine, celle du peuple, d'où l'élection au suffrage universel direct.
Et c'est donc l'un des points forts de la Ve République, c'est ce président de la République qui a beaucoup de pouvoir, mais c'est aussi parfois un motif de critique.
Oui, parce que vous le dites, c'est son point fort, mais paradoxalement, ça pourrait aussi être son point faible. C'est-à-dire que ça induit un système qui est très pyramidal. C'est-à-dire que en France, tout procède du président de la République, ou peut-être demain, un jour, de la présidente de la République. C'est d'ailleurs, on parle de l'élection suprême, c'est vraiment l'élection maîtresse, tous les 5 ans, auparavant c'était tous les 7 ans. On parle du magistère suprême qui est exercé par cette personnalité, et ça veut dire que l'un des inconvénients majeurs, c'est que finalement la vie politique se calque, s'adapte à cette élection-là, à ce poste-là, cela d'autant plus qu'avec la réforme du quinquennat, donc qui arrive au début des années 2000, non seulement le mandat passe de 7 à 5 ans, mais surtout il y a l'inversion du calendrier, c'est-à-dire que le calendrier électoral fait que désormais les élections législatives vont arriver juste après la présidentielle, dans la foulée, avec cette idée que par principe politique assez basique. Les résultats de ces législatives ne doivent faire que amplifier la présidentielle. En gros, le vainqueur ou la gagnante de la présidentielle, eh bien, se verra conforté par une forte majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et ça, ça coïncide donc avec le mandat, c'est 5 ans tous les deux. Bah, regardez, la dernière fois, enfin les dernières fois, 2017, élection législative dans la foulée, 2022, rebelote, élection présidentielle, d'ailleurs avec le même gagnant qu'en 2017, Emmanuel Macron, rebelote, élection législative dans la foulée. Sauf que ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est que, en gros, le principe politique joué, et oui, les députés élus, la majorité correspondait en effet avec le président nouvellement élu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé en 2022. Alors, pas pour la première fois, parce que ça s'était déjà arrivé sous Mitterrand, en 1988, lors de la réélection de François Mitterrand, du président socialiste. Il n'avait eu qu'une majorité relative, mais enfin, cela ne s'était joué qu'à 15 ou 20 sièges. Mais disons que le Premier ministre Michel Rocard, à l'époque, avait dû composer avec lui aussi avec une majorité relative, mais encore une fois, il lui manquait peu de sièges. En 2022, l'écart, le fossé est important entre la majorité très très relative qui est obtenue par le bloc central, Renaissance et ses alliés, Renaissance donc à l'époque d'Emmanuel Macron et de ses alliés du Modem, les Bayrouistes, parti d'Horizon d'Edouard Philippe. Bon, tout cela est quand même mis bout à bout, bah, ça ne fait pas du tout la majorité. Et donc finalement, en 2022, l'Assemblée devient extrêmement difficile puisque Elisabeth Borne n'a pas du tout de majorité, donc elle doit composer, et c'est pour cela qu'elle agira, qu'elle gouvernera, en tout cas pour ce qui concerne le budget, à coup d'article 49.3, c'est-à-dire c'est une façon un petit peu de tordre le bras au Parlement. Alors là, il faut juste quand même rappeler une chose, c'est que Michel Rocard avait encore plus qu'elle usé du 49.3. Le 49.3, en gros, c'est soit vous votez mon texte, soit vous renversez mon gouvernement. C'est pour ça qu'on le compare un petit peu au bouton atomique de la Constitution, parce que c'est vraiment, c'est tout ou rien. Et simplement, Elisabeth Borne l'utilisera bien moins que Rocard, parce que entre-temps, il y a eu une réforme constitutionnelle sous Nicolas Sarkozy en 2008. Il faut d'ailleurs souligner que cette réforme de 2008, elle redonne quand même pas mal de pouvoir déjà au Parlement, aux deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale. Notamment cette réforme a limité le droit d'usage, de tirage, pourrait-on dire, du 49.3 uniquement aux textes financiers, aux textes fondamentaux, c'est-à-dire le financier fondamentaux, c'est-à-dire le budget. Et le budget, c'est vrai que c'est très important parce que le budget, bah d'abord, ça permet de payer les pensions, les fonctionnaires, sinon on aurait les shutdowns à l'américaine. Hein. Mais également, ça exprime en fait la politique fondamentale d'un gouvernement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les oppositions ont souvent vocation à s'opposer au budget, puisqu'elle n'approuve pas la politique du gouvernement. Et donc, le 49.3, il est limité à ça, au texte des budgets, des deux budgets, hein, c'est général et sécurité sociale, et sinon, pour d'autres textes, ce n'est qu'une fois par an. Alors que à l'époque de Rocard, vous pouviez sortir le 49.3 sur tous les textes que vous vouliez, il n'y avait pas de limite. Donc déjà, là, il y a cette différence.
Alors, Henri Vernet, je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, il y a une valse de Premier ministre en quelques mois assez impressionnante. Cette situation est-elle inédite dans l'histoire de la Ve République ?
Oui, cette valse-là, cette instabilité, ce chaudron perpétuel à l'Assemblée nationale avec des motions de censure qu'on dégaine presque tous les 4 matins. Oui, c'est inédit. Alors, il y en a eu pourtant des épreuves, en tout cas des épisodes importants pour la Ve République, parce qu'on se demandait finalement comment elle allait durer après la première présidence de Charles de Gaulle. Le premier élément important, c'est évidemment l'alternance avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la première fois qu'un président socialiste, François Mitterrand, accède à l'Élysée en 1981. Donc déjà là, ça montre que la Constitution, elle est à l'épreuve de l'alternance, et après tout, c'est bien pour ça qu'un système politique est pensé.
En n'oubliant pas d'ailleurs que François Mitterrand avait critiqué la Ve République.
Vous avez entièrement raison, il parlait de coup d'État permanent à propos de ce texte, de cette Constitution. Évidemment, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il sera le premier à se fondre dans ses délices, avec tout ce qu'elle comporte, vous savez, de parlementarisme rationalisé, c'est ça l'idée, c'est-à-dire de tous ces petits instruments qui sont à la disposition de l'exécutif pour aiguiller et dominer la voie parlementaire. Donc il jouera de ça. Évidemment, les autres épisodes très importants pour la Ve République, ce seront les trois cohabitations, puisqu'on en a connu trois. Deux sous François Mitterrand, qui ont duré chacune 2 ans, et puis une cohabitation beaucoup plus longue entre le président Jacques Chirac et son premier ministre Lionel Jospin, entre 1997 et 2002. Donc la Constitution, elle avait déjà vécu tout cela, mais j'allais dire, elle avait bien absorbé, le système politique finalement avait bien fonctionné, et les Français, quand on les interroge bien plus tard, ils ont d'ailleurs plutôt, non pas une nostalgie, mais en tout cas plutôt un souvenir tout à fait apaisé de ces périodes de cohabitation. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très différent, c'est vrai que c'est inédit, et c'est brutal, c'est violent. Alors, d'abord, ça s'explique aussi par tout simplement, aujourd'hui, le tripartisme, non pas le tripartisme avant, on parlait de ça, du bipartisme, en gros l'opposition gauche-droite, hein, qui a prévalu pendant très très longtemps. Là, c'est pas le tripartisme, c'est plutôt trois blocs. On a avec un vaste bloc central qui gouverne, et ça c'est depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, même s'il y avait déjà eu l'épisode Giscard 30 ans auparavant, mais qui était quand même bien appuyé sur l'UDR, enfin sur les gaullistes, et du coup on avait quand même ce côté droite-gauche. Là, c'est vraiment éclaté entre un bloc central, central libéral, dont les contours, les deux bouts de l'omelette, hein, pourrait-on dire, peuvent être plus ou moins étendus. Et puis, du coup, ça relègue aux extrêmes, eh bien, la gauche, disons, plus radicale, en l'occurrence LFI, les Insoumis, qui parfois, d'ailleurs, sont main dans la main avec les écologistes, les communistes, voire les socialistes à certaines périodes, pas en ce moment, mais ça a été le cas. Et puis, mais donc, on peut pas parler, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler, en réalité, d'extrême-gauche. Et puis, à l'autre bout, de l'autre côté de l'échiquier, l'extrême-droite, le Rassemblement National, et puis désormais, depuis la dissolution de 2024, ses alliés, les défroqués un petit peu, hein, de LR, sous la coupe d'Éric Ciotti. Et ces trois blocs, évidemment, qui correspondent très exactement, hein, à trois ensembles de pensées, ou de désirs, ou de colère de la part des citoyens français, ben, on les retrouve bien sûr dans la population.
Et pourquoi y a-t-il trois France qui ne peuvent pas se parler au niveau politique, alors qu'au niveau européen, il n'y a pas de majorité, il faut passer des compromis. Dans d'autres pays, on discute alors qu'on n'est pas d'accord.
Vous avez dit le mot compromis. C'est vrai que la plupart des pays européens, et donc on retrouve ça dans l'hémicycle européen, hein, au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, cette culture permanente du compromis, mais qui est largement une culture partagée par nos partenaires. Évidemment, on cite toujours le cas des grandes coalitions allemandes, mais c'est également vrai en Italie. La plupart du temps, ils sont en coalition assez large. Alors là, pour l'instant, l'Italie, c'est une coalition des droites, hein, c'est l'union des droites. Madame Meloni l'a faite. En France, certains, comme Ciotti, que je citais tout à l'heure, ou certains au RN en rêvent. Mais dans tous les pays, on a ces coalitions. En France, on n'a pas cette culture-là, parce que justement, notre système électoral, c'est-à-dire uninominal, majoritaire, à deux tours, qu'on retrouve peu ou prou, de manière assez calquée, que ce soit pour la présidentielle ou pour les législatives, oblige à trouver vraiment un seul gagnant, et avec cette idée que bah, finalement le gagnant il prend tout, et ça veut dire que quand vous avez gagné, et bah, vous n'êtes pas prompt à l'ouverture, à chercher un compromis, à donner de la place aux autres. Et regardez, dans l'histoire, il y a un exemple qui est quand même assez parlant là-dessus. En discutant l'autre jour avec un ministre sortant, puisqu'en ce moment ils sont soit entrants, soit sortants, faisait remarquer qu'on oublie un peu à quel point Jacques Chirac avait justement raté un moment de ce genre-là, quand, souvenez-vous, en 2002, il est élu, alors avec un score magistral de 82% au deuxième tour, contre Jean-Marie Le Pen, leader à l'époque du Front National. Tout ça pourquoi? Parce qu'un énorme réflexe de ce qu'on appelle le Front Républicain a joué donc en sa faveur en avril 2002. Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, justement? Il aurait pu, à ce moment-là, ouvrir, puisqu'après tout, il n'était à l'Élysée que par la grâce de ce vaste mouvement de Français qui s'étaient tous retrouvés pour dire non à l'extrême droite de Le Pen. Et il n'y a pas eu l'ouverture dans la foulée. Il n'y a pas formé d'alliance qui aurait pu répondre à ça. Et ça montre que, décidément, ce n'est pas dans nos pratiques, ce n'est pas dans notre culture. Alors, Emmanuel Macron a tenté ça. Quand il arrive en 2017, avec ses marcheurs, l'idée, c'est justement d'effacer ce clivage droite-gauche, dire que tout ça c'est derrière nous, que les temps ont quand même bien changé, que les changements, l'urgence climatique, la situation économique mondiale, et puis depuis, il y a des crises qui n'ont cessé de s'accumuler. Tout cela rend un petit peu obsolète ces vieux clivages politiques, et que donc, il est temps justement d'aller chercher le meilleur chez chacun. Eh ben, ça ne prendra pas davantage, ça n'aura pas pris entre 2017 et 2022, pas non plus en 2022, alors que pourtant, là aussi, il y avait une possibilité du fait de cette très faible majorité relative dont disposait Macron après sa réélection à l'Élysée, et ça n'a toujours pas marché en 2024, alors que la dissolution a débouché, mais carrément sur une espèce de chaos politique où personne n'a majorité, mais tout le monde la revendique au Palais Bourbon.
Henri Vernet, si la culture du compromis semble impossible en France, est-ce que c'est lié au fait que tous les acteurs politiques sont omnubilés par l'élection présidentielle ?
Oui, la particularité est peut-être donc au problème institutionnel en France qui met trop dans la main de ce président. Et donc un parti, bah, par définition, il a besoin d'exister. Et pour exister, il lui faudra un candidat, une candidate à l'élection présidentielle. Ce qui fait que, bah, surtout dans une période comme celle où nous sommes actuellement, c'est-à-dire à 2 ans de l'échéance normale, hein, de 2027, je dis normale parce qu'aujourd'hui tout semble devenir possible, mais disons que si près, j'allais dire, de, bah, encore une fois, de l'élection suprême, personne n'est enclin au compromis. Et on voit notamment, c'est bien pour cela que bah, les extrêmes dont on parlait tout à l'heure, chacun des deux à sa manière, que ce soit LFI ou le RN, poussent tous les deux, alors qui à la démission ou à la destitution et à la démission du président de la République, qui à la dissolution le plus vite possible pour en venir, revenir aux urnes, parce que dans leur idée, dans leur optique, reste ça la conquête du pouvoir, mais du pouvoir en disant, ben voilà, ça y est, je suis à l'Élysée, maintenant je fais ma politique, je vais pas transiger avec d'autres, je vais faire ma politique. Et ça, c'est vrai pour tous les partis.
Est-ce que l'affaiblissement de nos institutions peut ouvrir la voie à un régime moins démocratique, plus autoritaire, comme le redoute Henri Guénot ?
Alors c'est un risque. Alors en même temps, je me permets quand même de faire une petite parenthèse parce qu'Henri Guénot, je suis pas sûr qu'il apaise le débat quand on a entendu par exemple ses réactions après la condamnation judiciaire de Nicolas Sarkozy, quand il a parlé de coup d'état judiciaire ou de coup de force. Tout ça ne préjuge pas du meilleur apaisement des esprits. Donc attention, avant de dénoncer des choses comme cela, c'est très bien parce que ce risque existe, il a raison. Mais alors commençons nous-mêmes, soi-même, par être extrêmement respectueux des institutions. De toute façon, on peut penser que la fatigue des gens, vous avez dit tout à l'heure fatigue démocratique, et c'est vrai qu'on sent chez les gens qu'il y a, enfin quand je dis chez les gens, on voit bien au gré des sondages, pas que en France d'ailleurs, hein, que aujourd'hui les peuples ont un questionnement, voire un scepticisme parfois par rapport à nos régimes démocratiques, et c'est vrai que quand ils voient un tel spectacle, quand ils voient aussi malheureusement l'inefficacité relative des dirigeants qui sont au pouvoir, qui ont les manettes et qui ne résolvent pas tous leurs problèmes, tout cela mis bout à bout, oui, ça provoque une fatigue qui montre que on entend parfois, d'ailleurs il y a quelques années quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes en France, dans certains cortèges, on entendait ça, on entendait, à l'époque on parlait du général de Villiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était démissionnaire avec fracas et qui bénéficiait d'une aura incroyable, qui lui-même ne demandait rien, mais moi je me souviens avoir entendu dans des manifs et vu des panneaux Villiers, mais donc le général, hein, l'ancien chef d'état-major des armées, à Matignon, Villiers à l'Élysée, ou voire d'autres chefs militaires, elle est marginale cette tentation. Néanmoins, et quand je parlais des sondages tout à l'heure, je me souviens en avoir publié dans Le Parisien, qui montrait ça, qui montrait l'aspiration à un régime autoritaire, et tant pis s'il faut renier sur cette liberté. Et ça, c'est très dangereux. Et là, je crois que c'est pas la première fois, je dis, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez jour après jour les petites dérives comme ça, les petits grignotages qui sont opérés par un président Trump qui, pendant la campagne, avait déclaré, et c'était peut-être pas simplement une boutade, que bah, ce serait peut-être pas mal d'être dictateur pendant 24 heures, on voit quand même que nos terrains démocratiques, ils sont fragiles, il faut pas jouer avec.
Dernière question, Henri Vernet, le passage à une 6e République qui amoindrirait les pouvoirs du président de la République, est-ce que ce serait la logique de l'histoire ?
Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, parce qu'une 6ème République, mais pourquoi faire ? Il y a souvent cette tentation en France de dire « bon, bah allez, ça marche pas, on va changer les règles du jeu ». Et ça, c'est un peu facile. Les règles du jeu, bah, comme on l'a vu, cette 5ème République, elle a quand même passé pas mal d'étapes, beaucoup d'épreuves. L'autre mot que vous employez, c'est « réduire les pouvoirs du président de la République ». Alors, peut-être, c'est vrai que le président de la République français, avec le président américain, bah, c'est sans doute celui qui a le plus de pouvoir. L'américain, d'ailleurs, sur certains points, en a moins parce que comme il est coupé du Congrès, donc les deux chambres du Congrès, il n'a pas cette interaction possible qu'ont les dirigeants, enfin les présidents français, via notamment leur premier ministre. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de pouvoir. Par exemple, regardez, quand il s'agit de prendre des décisions sur l'Ukraine, d'imaginer par exemple qu'on pourrait envoyer un contingent une fois qu'il y aura un cessez-le-feu pour garantir la paix, bah ça, un président français, il peut le faire très facilement. Son homologue, enfin non pas son homologue, mais le chancelier allemand, même le premier ministre britannique, parce qu'il est intéressé à l'affaire, bien qu'en n'étant pas dans l'UE, d'autres, bah non, pour eux, les processus de décision sont beaucoup plus longs parce que justement ils doivent composer avec leur parlement. Donc réduire, disons en tout cas ce qu'il faut, c'est certain, il faudrait rééquilibrer. Est-ce qu'un rééquilibrage ça passe par une 6ème République ? Mais non, pas forcément. On l'a vu en 2008, Nicolas Sarkozy, il faut reconnaître ça. Il avait fait une réforme vraiment importante de la constitution de 1958 et à bien des égards il l'avait démocratisé en quelque sorte. Il y avait plusieurs initiatives qui redonnaient la place. Leur place aux oppositions, qui rendait plus accessible le Conseil constitutionnel, il y avait l'histoire de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc
il a limité aussi à deux le nombre de mandats consécutifs.
Exactement.
Pour le président de la République.
Exactement, et ça c'est important. On voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, Macron, il ronge son frein, hein, alors qu'il est au plus bas en termes de popularité. Il peste tous les jours in petto contre cette loi qui l'empêche désormais de se présenter pour un troisième mandat. Mais donc, il s'agirait plus de rééquilibrage. Il s'agirait de, oui, de donner plus de pouvoir. On voit aujourd'hui que les assemblées en ont du pouvoir. Aujourd'hui, le cœur battant de la politique en France, il est à l'Assemblée nationale. Il n'est pas autre part. Mais simplement, il faudrait en effet acquérir cette pratique, cette culture du compromis, de la coalition, du gouverner, d'agir ensemble, en quelque sorte. Et ça, c'est quand même d'abord une question de culture, on l'a dit. Donc, il y faudra des efforts. Il faudra cesser d'être par la prochaine échéance présidentielle. Donc il y a quand même pas mal de choses à changer. Moi, je ne suis pas sûr, et puis je vois bien les politiques avec qui j'en parle, avec qui je peux évoquer le sujet, personne n'est vraiment fanat d'une 6ème République, à part, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon qui en a fait un cheval de bataille. Je crois que Arnaud Montebourg, en son temps, bon, pourquoi pas, l'imagination, elle peut être féconde en matière institutionnelle, mais moi, je pense que la 5ème, elle est bousculée, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Et simplement, peut-être qu'il faut apprendre à mieux l'utiliser. Et oui, utiliser ces différents ressorts, on voit finalement là qu'elle est assez plastique, qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec ces institutions-là.
Merci Henri Vernet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Merci.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet. Présenté par Nadia Bencher.